Cette semaine, nous sommes dans les tables du lieu-dit Le Boulès avec Stéphane et Manu Vidal et Mathieu Ozano pour une exposition à trois objectifs ou trois boîtiers. Une exposition intitulée « Gardienne des vieilles forêts ». Ces gardiennes sont la chouette Chevêchette et la chouette de Tungmalam. Stéphane, Manu Vidal et Mathieu Ozano sont passionnés depuis l'enfance par la nature. Ils ont grandi tous les trois dans des campagnes sauvages et préservées. Ils trouvent dans la photographie naturaliste un moyen de partager et de sensibiliser à la fragilité des espèces et de leur habitat. Vous travaillez à plusieurs. Pourquoi ?
En fait, on s'est rencontrés un peu au départ via les réseaux sociaux. On s'est découvert des centres d'intérêt communs. Ensuite, il y a une seconde étape qui s'est faite naturellement où on s'est rencontrés physiquement. Sur des lieux d'exposition. Et voilà, on a fait connaissance, sympathisé, on est devenus amis et on a décidé de monter ce projet à six mains, justement. Voilà, sur un thème qui nous tient à cœur à tous les trois et qu'on fait évoluer au fil des ans un peu dans nos sites respectifs de photographie.
Donc c'est plutôt la photo qui vous a réuni ou plutôt le thème de la forêt, des animaux ?
Je dirais que c'est un peu les deux en fait, parce que les petites chouettes, c'est un sujet vraiment passionnant. Donc en fait, voilà, dès qu'on s'est rencontrés, on a forcément parlé petites chouettes, on a parlé forêt, on a parlé vieille forêt, on a parlé préservation des milieux. Voilà, il y avait une discussion qui était au départ naturaliste. Et il y a aussi l'aspect photo, où on essaye de mettre en valeur, ces animaux pour mieux les montrer, pour mieux les faire connaître et pour mieux les protéger.
Alors vous habitez où ?
Alors avec Stéphane, on est plutôt côté Cantal, et Mathieu, il est côté Puy-de-Dôme dans le Livradois.
Donc vous êtes quand même pas très éloigné au niveau du paysage, du territoire.
Voilà, on n'est pas très éloigné, mais voilà, tout le monde sait que dans le Massif central, qui dit une centaine de kilomètres, dit pas forcément... une rapidité terrible pour se rendre d'un site à un autre. Donc on a chacun nos sites. Il faut savoir que pour faire des suivis, pour mieux protéger des milieux, il faut souvent être local. Plus on est proche des sites qu'on suit, plus on arrive à s'y rendre et à protéger et à mieux connaître. Donc voilà, on n'est pas très loin, donc on arrive à se croiser régulièrement, mais on est quand même sur des sites bien distincts parce que voilà, la forêt est grande pour des petites chouettes de 16 cm.
Et alors comment ça se passe un suivi naturaliste ?
Alors, ça, c'est déjà beaucoup de temps passé. Des prospections qui s'étalent sur des mois, peut-être on va pas parler d'années, mais des mois de prospection, de repérage en amont. Pour les deux espèces qu'on suit, la chouette chevêchette et la chouette de Tungmalam, c'est des suivis qui démarrent dès l'automne, en amont des périodes de reproduction qui sont au printemps. Donc dès l'automne, on peut commencer à entendre des chants plus spécifiquement pour la chevêchette. Les repérages se font très souvent à l'oreille. Donc on va le matin à l'aube et le soir, juste avant de coucher le soleil, sur des créneaux assez petits, on essaye de les écouter, de les entendre donc, pour repérer où se situent les individus. Et ensuite, on affine au fur et à mesure de l'hiver pour trouver, voir si elles sont au même endroit, les trouver et ensuite bien les localiser pour qu'on puisse... au niveau du printemps, trouver les loges de reproduction et essayer de confirmer un suivi. Donc ça s'étale en gros entre novembre et juin en fait, que les petits sortent et s'émancipent. Donc ça fait des suivis de quand même plusieurs mois.
Qu'est-ce qu'elles ont de si fascinant, ces petites bêtes, ces petites chouettes ?
C'est, alors en tout cas pour la chouette de Tungmalam, c'est une espèce dite boréale, qui est très présente en Europe de l'Est, en Scandinavie par exemple, et chez nous, qui en France métropolitaine, qui est relictuelle en fait de certains types de milieux, notamment les forêts d'altitude, les hêtraies sapinières par exemple. Et donc c'est pour ça que c'est, en tout cas dans le Massif central, c'est une espèce qu'on trouve très rarement en dessous de 1000 mètres d'altitude. Donc ça limite aussi l'étendue des prospections à certaines zones de massif, forcément. Et voilà, elle a un chant qui est très particulier, qui est quand même assez doux à l'oreille. C'est une espèce qui a une allure sympathique aussi, également. Et concernant la chevêchette, c'est un peu différent. C'est une espèce qui est en pleine expansion aussi. Enfin, pas aussi, du coup. Enfin, contrairement à Tungmalam, la chevêchette est en pleine expansion. Au départ, elle était concentrée sur l'arc alpin. Et au final, elle s'étend dans le Massif central, même dans le Limousin, dans les Pyrénées. Et dans les deux cas, ce sont des espèces qui ont des comportements, déjà qui ne sont pas farouches, il faut le savoir. Alors ce n'est pas une raison pour aller les déranger, mais elles ne sont pas vraiment effrayées par l'homme comme pourrait l'être une chouette ulotte, par exemple. Donc quand on prend son temps et qu'on respecte la tranquillité de ces animaux, on peut avoir parfois des proximités parfois très intéressantes, parfois aussi longtemps. Donc ça nous permet de rester vraiment en place et de pouvoir observer des comportements, des interactions entre le mâle, la femelle, avec les poussins aussi, quand les jeunes se sont envolés. Et je pense que c'est tout ça qui fait que voilà, c'est un petit peu le petit joyau des forêts, en fait, qui donne envie de continuer à les suivre.
Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en observation comme ça ?
Il y a plein d'émotions mêlées. Il y a des fois un peu, je le dis ironiquement, un peu avec un clin d'œil, la fatigue de se lever plusieurs jours de suite très tôt le matin pour être sur place, même avant le lever du soleil pour entendre les premiers chants. Des fois un peu de frustration parce que les chants durent des fois quelques secondes, voire quelques minutes. Juste sur le crayon de la matinée. Mais principalement beaucoup d'attachement et beaucoup d'émotion, parce que, comme le disait Mathieu, c'est deux espèces qui sont très mignonnes, entre guillemets, très attachantes. Et du fait aussi de leur rareté dans nos massifs, qui sont des massifs où on prospecte, qui sont près de nos domiciles respectifs, il y a forcément un attachement et une émotion à les retrouver, à les voir, à les observer. On se sent un peu comme à chaque fois privilégié d'être là, seul au milieu de la forêt, juste avec ces petites chouettes, cette présence. Donc il y a aussi principalement beaucoup d'émotions.
Alors vous avez parlé beaucoup du son. Il se trouve que vous les prenez aussi en photo. Pourquoi vous les prenez en photo ? Est-ce que ça a été ça le départ, ou est-ce que c'est pour avoir une trace de vos suivis ?
C'est un peu les deux, en fait. C'est des animaux, on l'a déjà dit plusieurs fois tout à l'heure, c'est des animaux qui sont très très discrets. La chevêchette, par exemple, c'est 16 cm, 70 grammes. Dans une forêt, ça passe relativement inaperçu. On va dire que sur la majeure partie de l'année, elle est quasiment invisible et indétectable, même au son. Donc il y a juste quelques champs qui permettent de détecter sa présence. Mais après, pour la voir, en fait, il faut vraiment arriver à trouver les sites de reproduction. C'est là qu'elles vont descendre un petit peu des sommets des arbres, et qu'elles vont se rapprocher un petit peu, qu'elles vont trouver une loge, qu'elles vont nicher, etc. Donc c'est là qu'on pourra le mieux les observer, le mieux les comprendre et aussi le mieux les protéger. Parce que tout à l'heure on parlait de suivi. Le but des suivis, c'est aussi les protéger, pour dire voilà, là il y a un site qu'il faut protéger, donc il faut faire avec la gestion forestière, faire en sorte que le site soit protégé. Donc, j'ai perdu le fil du départ.
Prendre en photo, justement.
Pourquoi les prendre en photo, voilà, en fait. Donc, c'est un suivi. Ouais. Pourquoi on les prend en photo ? Mais alors, déjà, il y a le côté rareté et tout, une bestiole qui est quasiment impossible à voir. Et donc, en fait, si on ne fait pas un suivi bien assidu, on va avoir du mal à la repérer. Et donc, voilà, une fois qu'on l'a vue, on se dit, il faut garder un souvenir de ça. Il faut montrer ça pour aussi à la fois pour alors nous, pour notre côté photographe, donc pour le côté artistique, parce que dès qu'on arrive à avoir un petit peu de proximité, on se dit comment la mettre en valeur, parce que on pense que c'est mieux de la mettre en valeur pour mieux la montrer, pour mieux la protéger. Donc voilà, la photo vient naturellement, mais c'est vrai qu'on va dire que 95% c'est du suivi, des écoutes, et la photo c'est vraiment une infime part des prospections et des sorties.
Oui, parce que en fait, vous êtes engagé dans une démarche de protection des animaux, de la forêt. Ça vient s'inscrire dans cette démarche-là. Et ça va même jusqu'à avoir travaillé sur le développement avec un papier particulier.
Effectivement, c'est le papier, le papier washi, qui donc historiquement c'est un papier, c'est un papier qui est fabriqué au Japon. Et celui-ci, donc, il est fabriqué par l'atelier papetier, donc Stéphanie et Benoît Dudognon, qui habitent dans le sud de la France et qui ont été formés pendant plusieurs années au Japon par des maîtres papetiers pour assimiler la méthode selon les traditions japonaises. Et ils ont l'autorisation, à ma connaissance, ce sont les seuls à avoir l'autorisation en France de pouvoir reproduire en fait cette méthode. Et c'est une méthode qui consiste à récolter la fibre du bois de mûrier du Japon, qui pousse naturellement en fait, dans le sud de la France. Et on a un procédé particulier et de l'eau. Bah, il fabrique la pâte à papier et ensuite il crée des feuilles donc de différentes textures, de différentes teintes. Et au final, le papier washi peut être utilisé pour d'autres choses que la photographie, notamment des objets de décoration, des vêtements. Voilà.
Pour compléter ce que dit Mathieu, nous, dans nos pratiques, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve à travailler ensemble. Dans nos pratiques photo et naturaliste, on est très attaché à une rigueur de prospection, une forme d'éthique. Des prospections qu'on fait localement, un dérangement qu'on essaye d'être le plus limité possible. Travailler avec les structures locales naturalistes, que ce soit le ONF, les parcs naturels régionaux ou l'LPO. Et ces valeurs-là qu'on a dans nos pratiques et dans notre suivi, on les a retrouvées en quelque sorte dans le travail de Stéphanie et Benoît, dont parlait Mathieu, qui fabriquent le papier. Dans le côté local, artisanal, humain, on sait exactement d'où vient le papier et qui l'a fabriqué. Donc en fait, quand on utilise ce papier, on est vraiment complètement dans la même cohérence. Ça a vraiment une cohérence et ça a vraiment du sens pour nous d'imprimer sur ce papier et de travailler avec ces personnes-là, qui sont devenues aussi maintenant des amis. Donc là, ça fait un tout cohérent en fait pour que nos photos s'expriment sur ce papier-là.
Est-ce que vous auriez un souvenir particulier à partager ?
En fait, il y a les suivis sont longs, difficiles en termes d'horaire et tout, et d'ingratitude, parce que parfois on peut faire une sortie de plusieurs heures et puis les champs durent quelques secondes, donc voilà, ça marche pas à tous les coups. Et là, c'est vrai que ce printemps 2024, on a un couple de chouettes qu'on a suivi pendant quelques semaines, et au moment de l'installation, au moment où ils ont certainement choisi une loge pour élever des petits, et ben on les a perdus en fait. Ils ont plus chanté, donc ils ont plus émis le moindre son. Donc là, pour retrouver, voilà, comme on disait tout à l'heure, un petit animal de 15 cm dans les bois, c'est difficile. Et donc c'était mi-avril qu'on a eu les derniers champs. Et donc c'est seulement début juin qu'avec un petit peu plus de disponibilité, j'y suis retrouvé et j'ai un peu passé tous les arbres de la forêt, entre guillemets, enfin tous les arbres potentiellement qui avaient une loge et tout, qui paraissaient remplir les bonnes conditions. Et je les ai retrouvés au bout de 4 ou 5 heures. Et donc là, j'ai eu ma petite larme et tout. J'ai appelé Stéphane et j'ai dit je les ai retrouvés parce que j'ai vu un arbre. Je lui ai dit peut-être que là, ça pourrait coller. Et puis j'ai entendu un son, juste un tout petit son et tout, qu'on peut seulement entendre à 10 mètres. Et je savais que c'était la femelle qui disait qu'elle était là. Et j'ai vu la loge pas très loin. Et puis après, quelques semaines plus tard et tout, en surveillant, on a vu les petits, on a pu suivre les petits, on a vu l'envol des petits. Donc, mais je me rappelle que quand j'ai appelé Stéphane, j'ai eu la petite larme à ce moment-là. Oui.
Pour ma part, c'est la première, c'est l'image qu'on a derrière nous d'ailleurs. Là, c'est cette chouette de Tegmalm que j'ai découvert vraiment par hasard, grâce à un couple de pics noirs en fait. Voilà, que j'avais découvert quelques semaines auparavant, que je suivais en fait pour voir s'ils allaient s'installer dans la loge. Et il se trouve que dans cet arbre, il y a trois autres loges inoccupées, que je croyais inoccupées. Et en fait, c'est un couple de chouettes de Tegmalm qui s'est installé dedans. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir les observer de très près. Quand je disais tout à l'heure que c'était des espèces qui sont vraiment pas farouches, J'ai eu le mâle qui est venu chanter à 2 mètres de moi, alors que je bougeais pas, quoi. Enfin, ce sont des espèces qui sont curieuses. Et ouais, ça reste un énorme souvenir. Ouais. Ma première rencontre avec un couple de chouettes de Tegmalm. Ouais.
Alors le thème du festival, c'est Terre de vie. En voyant vos photos, on se dit que c'est des terres de vie, mais pas que pour les êtres humains, pour des tas d'êtres vivants en fait.
Mais c'est vrai que oui, dans le thème terre de vie, je pense que nous, on aurait la petite niche forêt de vie qui pourrait bien coller à tout ça et tout ce qu'on essaye de préserver, de montrer et toute la sensibilisation qu'on essaie de faire passer. Après, voilà, c'est un vaste sujet, hein, la considération de l'humain envers la faune sauvage. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures, ça dépend de la sensibilité de chacun, ça dépend de plein de choses, ça dépend aussi du milieu social, de l'éducation, de plein de choses. Donc voilà, nous, on essaye de transmettre ça, le fait que voilà, on n'a jamais assez de considération pour la faune sauvage, pour les êtres qui nous entourent, et qu'il faut continuer pour rien que pour les générations futures. À la fois pour nous, parce que voilà, tout le monde sait que qui dit biodiversité dit survie de l'espèce humaine, mais aussi pour que voilà, on continue à s'émerveiller de tous ces petits animaux, de toutes ces petites chouettes qui sont autour de nous et qui passent souvent inaperçues.
Oui, alors comme disait Manu, c'est un sujet à la limite du philosophique dont on pourrait débattre pendant des heures. Ça touche à la place du vivant la place du vivant en général. La place de l'homme, la place qu'on laisse à chacun. Dans nos sociétés ou dans nos modèles de société occidentale, le vivant est un peu mis à mal, voire très mis à mal. Donc je ne dis pas qu'on essaie peut-être nous de faire notre part, mais nous on essaie de. On a certaines valeurs où on sait que le vivant, les petites chouettes là, en l'occurrence, qui illustrent ça, ont leur place. On essaie de travailler à mieux les connaître et aussi de voir comment préserver les milieux pour que le vivant et la vie aient sa place malgré nos modes de consommation, d'exploitation des milieux, des ressources. C'est des toutes petites parts de choses, je ne sais même pas si ça a un effet, nos pratiques. Avec les structures, les structures avec qui on travaille, il y en a quand même peut-être un petit peu. Si on arrive un petit peu à sensibiliser de ces menaces, ce sera peut-être ça qui permettra d'aller dans la bonne direction.
Pour compléter cette interview de Stéphane et Manu Vidal et Mathieu Ozano, qui présentaient donc à Photobraque 2024 une exposition intitulée « Gardienne des vieilles forêts », donc pour vous auditeurs, auditrices, voici deux audiodescriptions de deux photos de ces trois naturalistes.
Alors là, nous sommes donc devant une de vos photos, Mathieu Ozano, qui s'appelle « L'appel de la forêt ». Est-ce que vous pouvez la décrire aux auditeurs et aux auditrices ?
C'est une image d'une vieille forêt d'altitude, donc qui se situe entre 1000 et 1100 mètres d'altitude dans le Livradois, sur le territoire du parc naturel régional Livradois-Forez, qui est essentiellement composé de hêtres et de sapins. Donc on appelle ça une hêtraie sapinière. Le sol est recouvert d'une épaisse mousse de lichen sur les arbres, les fameux lichens barbus, pour ceux qui connaissent, qui pendent aux branches. Donc des forêts aux ambiances très humides, avec beaucoup de clair-obscur, voilà, des zones qui sont plus éclairées, d'autres qui sont plus sombres, qui apportent du contraste et du mystère, justement, à ces forêts. Au sol, il y a également énormément de myrtilles. Dans ces forêts, on a la chance d'avoir une strate qui est très hétérogène, en fait. Et c'est ce qui favorise aussi la biodiversité, c'est-à-dire que chacun s'y retrouve. La microfaune du sol, dans les mousses, dans les lichens, qui permettent voilà, à certaines espèces de se développer, qui constituent des ressources alimentaires, notamment pour les chouettes, mais pas que. J'aime particulièrement ces ambiances, en fait, un petit peu mystérieuses. Bon, parfois, peut-être un petit peu lourde en termes d'ambiance, ça c'est mon côté un peu mélancolique. Et pour l'anecdote, pendant que je faisais cette photo, il y a un mâle de chevêchette qui chantait non loin de là, donc c'est un souvenir, qui me marque, c'est une de mes photos préférées, si je puis dire, et qui traduit vraiment le besoin que j'ai d'aller me retrouver dans ces milieux relativement préservés. Je dis relativement parce que ça reste quand même des milieux qui sont exploités par les forestiers, mais bon, étant donné que ce sont des forêts publiques, c'est une exploitation qui est, disons, légèrement plus douce, légèrement plus durable, mais donc ça permet en tout cas de maintenir le couvert forestier dans ces milieux-là.
Alors, il y a une forte présence du sol dans cette photo. L'appareil était situé où ?
J'étais pas sur un trépied, là. Il était vraiment dans mes mains, mais je suis au grand angle avec cette image. J'ai utilisé un zoom 16-35, et donc là, je suis à 16 mm, donc vraiment au plus grand angle. J'ai orienté l'objectif vers le bas. Donc, on voit, c'est vrai, beaucoup le sol, les troncs des arbres et le début de certaines branches, mais on ne voit pas les cimes des arbres, effectivement. Et il y a la lumière, en fait, qui semble indiquer une direction, un chemin à suivre. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en valeur dans le cadrage de l'image, en fait. D'où cette orientation, en fait, qui met en valeur aussi ce cheminement lumineux à suivre pour qui le veut.
On peut préciser que c'est une photo en couleur et que ça forme une sorte de camaïeu dans les verts, évidemment.
Oui, effectivement, le vert est présent. On n'est pas encore sur le vert très flashy du mois de mai. Il faut savoir qu'au mois de mai, les myrtilles ont fait leurs feuilles. Et donc là, on est sur un vert pomme granit très, 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 très fort. Ce n'est pas forcément le plus facile à photographier, d'ailleurs. Donc là, oui, on est au mois de mars. Donc un vert un petit peu plus terni, mais qui permet de contraster aussi avec la mousse. Qui reste un petit peu plus clair que le reste. Mais effectivement, ouais, le vert est assez dominant sur l'image.
Donc une forêt un peu endormie qui est en train de se réveiller tout doucement au mois de mars.
Exactement, c'est la forêt endormie. Parce qu'en plus, alors, c'était tôt le matin, effectivement. Donc elle est endormie à la fois par rapport à ce moment où j'ai pu la photographier et aussi par rapport à la saison, hein, parce que le mois de mars, dans le Massif central, à 1000 mètres d'altitude, c'est encore l'hiver, hein. C'est vraiment les balbutiements du printemps. Hein.
Merci.
Eh bien, je vous en prie, merci à vous.
Donc là, on est devant une photo de Stéphane et Manu Vidal qui s'appelle Mirador. Est-ce que vous pouvez la décrire ?
Alors, c'est une photo qu'on a choisie pour cette exposition qui est récente, puisqu'elle date de ce printemps. Elle est en format portrait grande dimension, donc 60 par 90 cm. On l'a choisie plus particulièrement parce que il y avait malgré la douceur générale de l'image, un contraste entre le vert des feuillages et des petites pousses de sapin de l'année qui étaient dans la lumière, donc un peu vert vif, entre ce vert donc et le côté un peu rougeoyant d'un arbre mort sur lequel se tient la femelle chevêchette, qui est toute petite dans l'image. Sur un arbre qui a été attaqué par les scolytes, donc qui a perdu son écorce partiellement. Et voilà, il y a un contraste entre le rouge rouille de l'arbre scolité et le vert des feuillages avoisinants. Et puis un contraste aussi entre la toute petite taille de la chevêchette qui fait peut-être un dixième ou un vingtième de l'image. Et puis ces géants de la forêt que sont les sapins, même si là il y en a un qui est mort. Donc voilà, c'était un peu un mariage de contraste malgré une douceur générale de l'image.
Qu'est-ce qu'on voit en premier, d'après vous ?
Dans l'image, j'allais dire, on voit peut-être un peu, un paysage forestier ou une ambiance forestière. Le tronc à vif de l'arbre interpelle un petit peu. Et après, je pense que le public doit chercher où se trouve le sujet dans l'image. Mais je pense que déjà, il y a ces contrastes de rouille qui doivent attirer le regard.
Donc oui, il y a vraiment trois parties, quoi, trois plans. C'est une photo qui est très verticale. Donc au milieu, il y a ce tronc, comme vous dites, qui traverse l'image. Le premier plan est plutôt un flou. Et le troisième plan, donc, qui se situe plutôt sur la gauche, est là où c'est net et c'est là où il y a la petite chouette.
Alors c'est vrai qu'optiquement, elle n'est pas facile peut-être à décrire. Il y a trois plans qui sont dans le sens vertical et de droite à gauche. Donc en avant-plan, il y a des branches de sapin qui sont dans le flou puisqu'ils sont hors focus optique. On devine un sapin aussi un peu flou aussi. Ensuite, on a le plan net qui est au milieu avec l'arbre scolité et la petite chouette qui se tient sur une petite branche. Et puis en arrière-plan, le reste des houppiers, des sapins, des haies qui sont plus flous. Où il y a donc ces lignes d'arbres qui s'entremêlent. Mais c'est vrai que ce qui nous plaît aussi de jouer dans la forêt avec les arbres, les fûts des arbres, c'est de jouer aussi avec les verticalités des lignes. Et là, on a donc joué avec cette verticalité et la netteté des différents plans pour essayer à la fois de montrer les choses et puis de mettre en valeur le sujet dans une ambiance générale, quoi, en fait.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la chouette, elle nous regarde.
Je ne sais pas si elle nous regarde ou si son regard est tourné dans notre direction, parce que Mathieu le disait tout à l'heure, c'est une espèce qui n'est pas très farouche. Quand on l'observe, on voit beaucoup de... Elle tourne beaucoup la tête dans différentes directions. Et même si des fois on bouge ou autre chose, elle ne va même pas forcément nous suivre. Quoi. En fait, c'est ça qui est appréciable quand on l'observe, c'est qu'elle elle a un comportement qui est celui d'un animal qui n'est pas dérangé par notre présence, comme si on n'était pas là. Donc effectivement, elle regarde un petit peu dans notre direction, mais voilà, il n'y a pas de crainte de sa part ou autre chose. Elle est, une seconde ou deux après, elle tourne la tête dans l'autre sens, elle n'est pas importunée. Quoi. Je voulais rajouter une petite anecdote par rapport à cette image. Donc pour compléter Stéphane, c'est vrai que voilà, on a profité du fait qu'elle regarde dans notre direction pour prendre une photo à ce moment-là, parce que voilà, c'est plus photogénique qu'un animal qui est vu de dos. Et donc l'anecdote par rapport à ça, c'est que en fait, quand on l'a vu se percher sur cet arbre, je pense qu'on a été quasiment au pied de l'arbre. Je pense qu'elle est à peu près à 25 mètres de hauteur. Et pour arriver à prendre cette photo, arriver à faire une mise en valeur et tout, et avoir justement ce côté flou et cette petite fenêtre vers la chouette, on a dû reculer d'environ 40 ou 50 mètres. Et là où on était vraiment content d'être deux et d'avoir quatre yeux, c'est que pour suivre un animal de 15 cm à travers les arbres, à travers les branches, à travers les jeux de lumière, on y a passé un petit moment, on a eu de la chance qu'elle reste plus de 2 minutes sur l'arbre.
À la semaine prochaine pour une interview de nouveaux photographes.